Les confréries maghrébines. À l'ombre des grandes mosquées de l'Occident musulman, sens du mot Maghreb, soit le couchant, qui obéissent généralement au malikisme, l'école doctrinale, l'islam populaire maghrébin est lui aussi animé par un grand nombre de confréries appelées turuq, au singulier tarika ou voies initiatiques. Déjà, à la fin du XIXe siècle, deux auteurs, Octave de Pont et Xavier Coppolani, ont rédigé un ouvrage assez complet, illustré et documenté sur les confréries religieuses musulmanes. L'ouvrage fut publié par Adolphe Jourdan à Alger en 1897. Cette étude était elle-même précédée de deux travaux importants, hélas connotés historiquement, celui de Édouard de Neveu, l'Erkouan, ordre religieux chez les musulmans de l'Algérie, Adolphe Jourdan, 1845, et celui de Louis Rine, Marabout et Juan, paru en 1884, sans doute les premiers écrits francophones sur la question. À cette époque, la recherche sur les confréries soufis, ici appelées ordres religieux ou marabouts, visait surtout le recensement et l'évaluation de leur puissance politique, leur impact spirituel. Mais très vite, la spécialisation du regard ethnologique va permettre de mieux connaître les confréries une à une. Ce fut notamment le cas avec René Brunel, qui se fixa pour objectif de présenter de manière exhaustive une grande confrérie comme celle des Essaouas du Maroc. Son livre, Essai sur la confrérie religieuse des Essaouas au Maroc, Paul Goetner, 1926, qui a mal vieilli, est ponctué de prières diverses liées au rituel Essaoua de méditation et de sagesse. Mais il présente l'avantage d'être illustré, ce qui fait un document vivant, très proche de l'inspiration initiale de la confrérie qui s'est rendue populaire pour ses acrobaties, ses tours de magie et ses charmeurs de serpents. Plusieurs autres ouvrages du milieu du siècle dernier ont réservé à la question des confréries de larges chapitres. On peut aujourd'hui les consulter en bibliothèque et parfois vous les trouverez chez les bouquinistes du bord de Seine. Il suffit maintenant à l'auteur de vous indiquer l'un des meilleurs ouvrages sur la question, « Le culte des saints dans l'islam maghrébin » d'Émile d'Hermenghem, Gallimard 1954. Quelles sont aujourd'hui les grandes confréries musulmanes et quel est leur rôle exact? Faut-il les distinguer des grands saints locaux et surtout des grands théologiens de l'islam traditionnel? Le dernier aspect du système maghrébin des confréries est la mainmise sur des patients, réels ou imaginaires, d'un certain nombre de membres de celles-ci en matière de médecine traditionnelle, que ce soit les talebs ou les rebouteux. De nombreuses études ont tenté de cerner ce phénomène. L'une des plus connues, parce que la plus ancienne, est l'étude qu'Edmond Douté a consacrée au folklore populaire du Maghreb. Parue en août 1908 chez Adolphe Jourdan, à Alger, cette œuvre porte sur l'interaction active et très vascularisée entre la magie et la religion d'un côté, mais aussi, incidemment, entre le sacré et le profane. Et de là, entre le monde visible et le monde invisible. Edmond Douté tente de se justifier. Le médecin n'est à l'origine qu'un contre-sorcier. Le mot « tib » en arabe classique signifie aussi bien magie que médecine. La médecine est fille de la magie. Aussi bien, même de nos jours, le médecin dans l'Afrique du Nord ne se distingue plus du sorcier que par la maladie du djinn. L'auteur entend parler ici des médecins traditionnels que l'on appelle taleb. Ce qui est sûr, c'est que la médecine parallèle continue à jouer un rôle décisif dans le règlement des conflits psycho-affectifs, relationnels et même dans certaines affections psychosomatiques. Il en va de même de ce que les Arabes appellent la médecine spirituelle. Une sorte de mot-valise dans lequel il range un nombre incalculable de posologies strictement spirituelles, c'est-à-dire à base de prières et de méditations, au terme desquelles beaucoup d'inhibitions sexuelles et de maux de l'âme sont résolus. Les librairies arabes présentent d'ailleurs en quantité un ouvrage intitulé « La médecine du prophète », dans lequel il est question de nombreux dispositifs à vocation thérapeutique. Personne, cependant, n'a enregistré l'impact de ces directives sur les patients. On ne saura pas non plus si les malades qui ont recours à de tels médicastres sont réels ou imaginaires. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter avec profit A. Ancio, Les Gnawa de l'ordre de Sid Boulel, Bruxelles, 1977, ou G. Drag, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Confrérie Ezaouia, Paris, 1951.